Le changement climatique, quel impact pour les armées en Afrique ?
À l'occasion du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Pour Parler vous propose 4 épisodes exceptionnels dédiés aux enjeux sécuritaires sur le continent.
On connaît les conséquences du réchauffement climatique en Afrique, continent particulièrement vulnérable. Impact sur les populations, l'agriculture, la montée des eaux, l'invasion fréquente de criquets pèlerins. On en connaît moins une autre, qui est l'impact sur la sécurité et la défense. Mouvement entre les populations, insécurité, et aussi d'un point de vue capacitaire pour les armées. Pour tout comprendre, rendez-vous avec Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Il est spécialisé dans les politiques de l'environnement et notamment ses liens avec la sécurité.
Le GIEC fait un lien relativement prudent entre les questions de sécurité et le changement climatique. En fait, il considère que le changement climatique a un impact sur les États fragiles, c'est-à-dire qu'il favorise l'apparition d'États fragiles dont les institutions ne pourront pas faire face aux défis multisectoriels du changement climatique. Et notamment, il va appeler la part des États des réponses dans tous les domaines, c'est-à-dire préparer au choc climatique les questions de production alimentaire, des questions d'infrastructures qui sont directement menacées, les questions sanitaires, aider sa population aussi, préparer sa population à cela. Et en fait, il aura moins de moyens. Lui-même sera contraint dans ses capacités d'action. Le départ, c'est-à-dire le fait que des populations choisissent comme mode d'adaptation de quitter des endroits qui sont très touchés par le changement climatique, donc à travers des migrations, fragilise également l'État. Il touche particulièrement des pays à faible revenu. Aujourd'hui, à l'échelle du continent africain, on constate une augmentation de la température qui est supérieure à la moyenne mondiale. Tout en rappelant, évidemment, que le changement climatique est une question de développement, il faut tout de même préparer l'outil sécuritaire pour essayer que les questions de sécurité ne soient pas un frein au développement d'un État ou d'un autre. On va dire, il y a deux grands sujets pour les armées, les questions de prospective, qui sont, j'ai envie de dire, plus classiques, c'est-à-dire en quoi le changement climatique va changer la nature de mon métier. Est-ce qu'il faut que je prépare mes forces à des conflits, à des tensions qui ont davantage une origine humanitaire, donc de l'accompagnement, de la participation à la gestion de crise? Est-ce que la fréquence de mes interventions va augmenter? Est-ce que je vais avoir des nouvelles zones de mon territoire où je vais devoir intervenir de manière plus régulière? Donc pas forcément pour faire la guerre, mais également pour contribuer à des missions de restauration de la paix, de post-catastrophe. Et puis il y a le deuxième, c'est une approche par les milieux, qui consiste à dire finalement, mais est-ce que le changement climatique n'impacte déjà pas la manière dont j'exerce mes différentes missions? Le facteur plus handicapant, c'est les températures extrêmes. Donc, à nouveau, on pourrait retenir deux critères. Est-ce qu'il s'agit de la température moyenne 35 ou 40 degrés? Honnêtement, à mon avis, les deux sont extrêmement pertinents. C'est-à-dire, c'est lorsque la température est tellement forte que ça pose toute une série de problèmes pour déployer des hommes qui sont exposés à des extrêmes de température très élevées, des matériels qui sont peut-être rustiques, robustes d'une certaine manière, mais qui vont connaître des limites. Et puis aussi, ça va remettre en cause la manière dont mon outil est conçu, le maillage sur mon territoire, et notamment les bases. Alors évidemment, si vous êtes sur des bases du littoral d'Afrique de l'Ouest, qui sont des côtes très exposées, par exemple, à l'érosion, un risque tempête augmenté, alors oui, votre outil militaire va être menacé. Moi, il y a deux messages que je trouve importants. C'est d'abord essayer de prendre conscience que beaucoup de problèmes rencontrés dès aujourd'hui sont liés à des conditions de température qui ont augmenté. Et en fait, préparer les forces à un horizon opérationnel de 20 à 30 ans, d'ici 2050 au plus tard, parce que 1 ou 2 degrés de plus, en fait, parfois vont créer des effets de seuil, des effets de rupture des forces. Et en fait, réfléchir à 2 ou 3 degrés à l'horizon 2050, en plus, n'est même pas du tout une aberration. C'est-à-dire qu'on espère maintenir à l'horizon 2100 la température à 2 degrés. On est plutôt sur une trajectoire pour l'instant à 2,8. Cette augmentation n'est pas du tout homogène. Hormis le fait que certaines zones de l'Afrique se réchauffent plus vite que d'autres, en fait, il y a des effets aussi saisonniers. La température en général va être beaucoup plus forte en saison sèche qu'en saison humide. En Côte d'Ivoire, la température a augmenté de 1,4 degrés entre 1980 et 2010. Et on pense que d'ici 2050, elle va augmenter de 2 degrés, mais avec un pic à 3,5 degrés en janvier. Vous voyez, donc en fait, il ne faut pas raisonner en température absolue, mais finalement se dire, est-ce que les opérations que je fais aujourd'hui, je pourrais les faire avec 2 ou 3 degrés de plus? Le deuxième facteur impactant, c'est ce risque d'inondation augmentée à cause, alors, soit de saison des pluies qui vont changer, par exemple, la petite saison des pluies qui devient plus intense en précipitation que la grande saison des pluies. Donc, il faut repenser les modes d'opération pendant ces périodes-là, ou au contraire, donc, des pluies plus intenses en général, même courts, et qui rendent inaccessibles certaines portions du pays. Donc, pour être très concret, les températures extrêmes posent un vrai problème en termes de mobilité terrestre, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire rouler des véhicules à certains moments de la journée? Alors bien sûr que les forces s'adaptent déjà, hein. Les opérations ont lieu tôt le matin, en fin de journée, mais peut-être qu'on irait vers des opérations davantage nocturnes, mais ce qui implique d'avoir des matériels spécialisés. Donc il y a un vrai impact à la fois donc sur la capacité humaine à évoluer dans ces températures, à s'assurer que les matériels, pour des questions toutes basiques, hein, le refroidissement de l'habitacle, le fonctionnement des systèmes, est-ce que les munitions vont supporter des températures de quelques degrés supplémentaires, être sûr que la chaîne carburant suive, alors évidemment trouver de l'eau, etc. Mais dans le cas d'un État africain, il connaîtra évidemment ses points de prélèvement, les différents puits auxquels il peut accéder, et normalement les volumes à pas dépasser pour pas peser sur les populations alentour. Et en fait, plus globalement, il y a un facteur sur la planification des opérations. En fait, le changement climatique pèse déjà sur la décision opérationnelle. On ne pourra pas forcément faire décoller un aéronef, un hélicoptère, un avion pour accompagner les forces terrestres à certains moments de la journée. On connaissait déjà les contraintes météo liées au vent, à la pluie, bien sûr. Eh bien, ces contraintes, en fait, vont devenir de plus en plus fortes pour la décision opérationnelle. On voit aussi que le climat devient de plus en plus imprévisible, avec des tempêtes ou des épisodes orageux violents. Il y a notamment ce qu'on appelle les fronts de rafale, donc c'est des sortes de vents très violents qui précèdent parfois de 150 à 200 km les gros orages qu'on voit sur les cartes météo, mais on ne voit pas forcément ces fronts de rafale. Et donc, il faut bien se préparer à avoir des épisodes comme ça moins prévisibles. Ça touche aussi la navigation, hein. Je pense à tout l'espace dans l'Atlantique entre les Açores et le continent africain et la côte mauritanienne, qui était un espace relativement paisible et prévisible. Et en fait, on s'aperçoit que les eaux de surface sont passées de 23, 24 degrés aujourd'hui à 26 degrés. Et ce qui favorise en fait un risque cyclone intense. Voilà. Et donc, cette zone paisible devient moins sûre, plus imprévisible pour la navigation. Je voudrais insister sur la préparation des bases militaires, hein, puisque c'est le point de départ. C'est aussi le hub logistique des forces en général. Et en fait, il faut bien penser les infrastructures militaires dans leur environnement naturel, social et humain. Elles sont pas déconnectées des catastrophes qui vont toucher les gens qui habitent autour. Donc, il faudra aussi se préparer dans cette logique-là à être davantage un intervenant de la gestion de crise à l'échelle locale. Et puis aussi, bien avoir conscience des impacts sur des infrastructures civiles indispensables aux métiers militaires, aussi des aéroports, des ports. Donc là, évidemment, le risque d'érosion littorale, par exemple, est prioritaire. La plupart des forces militaires dans le monde, et en Afrique également, évidemment, sont dans des logiques de court terme. Et lorsqu'elles rencontrent des problèmes liés à l'environnement, qui peuvent être un matériel défaillant à cause de température, etc., des usures prématurées, ils doivent apporter une réponse très courte, parce qu'ils sont engagés. Et donc, leur cinétique de réponse, elle est de quelques mois, vous voyez, 6 mois à 1 an. Et avec des moyens limités, c'est compliqué de se projeter à 20 ou 30 ans. Donc l'idée, c'est vraiment, effectivement, moi, un de mes messages, c'est de sensibiliser les forces militaires, les forces armées. On ne parle pas de quelque chose d'abstrait à 20 ou 30 ans. Le changement climatique est déjà sensible et ses effets vont s'exacerber. Et donc, en fait, ça touche un petit peu tout. C'est-à-dire que ça va toucher le métier humain. Comment préparer la santé des forces? Par exemple, penser les nouveaux matériels, être bien sûr qu'ils soient dimensionnés, s'ils sont climatisés ou même pour accueillir de nouveaux matériels énergivores, hein. Des bateaux de marine doivent être pensés pour circuler dans des eaux plus chaudes. Sur les bateaux, en fait, il y a des effets directs et indirects. La plupart des bateaux militaires sont refroidis par l'eau de mer. Et quand l'eau de mer augmente à certaines périodes de l'année de 2 ou 3 degrés, bien effectivement, ça pose un problème de refroidissement global. Il faut aussi penser à l'architecture navale, la manière dont on va prendre l'eau pour refroidir les moteurs et les systèmes. De plus en plus près des grands deltas, à cause des pluies plus intenses qui favorisent le ruissellement et l'érosion, vous avez davantage de sédiments. Près des grands deltas ou les grands ports, il y a les questions de pollution. Vous pouvez avoir plusieurs dizaines de centimètres de déchets d'épaisseur à l'arrivée des grands ports. Donc tout ça, en fait, crée des dysfonctionnements qu'il faut anticiper. Voilà, il y a un enjeu de dimensionnement des contraintes. Et par exemple, pour les pays de l'OTAN, il y a un STANAG, une sorte donc de standard militaire qui a évolué pour tester les électroniques qui embarquaient, qui sont passées de 56 à 63 degrés. Donc maintenant, la validation température extrême pour les forces a augmenté. Donc c'est un défi un peu qui touche, je pense, tous les métiers militaires, l'approvisionnement énergétique, la manière d'opérer, les matériels avec lesquels on peut opérer, les moments de la journée avec lesquels on va opérer. Je pense qu'on peut convaincre les décideurs avec différents types d'arguments. Il y a ceux qui vont d'abord considérer que l'argument opérationnel prime, eh bien, intégrer le changement climatique, c'est favoriser cette autonomie des forces, cette résilience des forces face au changement. Ça peut être un facteur financier, parce que ne pas le faire, ça va créer des surcoûts. Vos bases vont être davantage impactées, par exemple. Vos matériels tomberont davantage en panne. Donc oui, je pense que ça vaut le coup d'investir un petit peu pour mieux calibrer les efforts à faire dans les 20-30 prochaines années et adapter à court terme les forces aujourd'hui.
Bouleversement à venir donc, d'où l'intérêt d'anticiper en investissant. Merci Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique.
Rendez-vous les 6 et 7 décembre pour la 7e édition du Forum de Dakar. En attendant, suivez toutes les actualités du Forum sur nos réseaux. Pour parler, un podcast écrit et réalisé par l'agence 35 degrés Nord.